Bonjour, vous êtes sur Fréquence Mistral. Il est 14h07 et nous recevons François et une seconde du lycée Esclangon pour une émission un peu spéciale.
Oui, bonjour Chloé, bonjour à tous, évidemment. Et vous avez reconnu ces mesures et cette musique juste pour présenter cette émission. Nous allons parler d'Europe avec un groupe d'élèves du lycée Félix Esclangon et leur enseignante. L'Europe et les jeunes. Vous n'êtes pas sans savoir que dans quelques mois, nous allons voter aux élections européennes, donc il est important que de jeunes citoyens, autrement dit des élèves de la classe de seconde du lycée Félix Esclangon à Manosque, eh bien nous parlent de l'Europe et du travail qu'elles ont réalisé, notamment avec leur enseignante qui est Sabine Copeland, que j'ai grand plaisir à accueillir. Bonjour Sabine.
Bonjour François.
Cette émission qui est particulière sur l'Europe, comment est-ce que vous l'avez préparée avec vos élèves?
Oui, nous travaillons en accompagnement personnel depuis septembre sur les pays européens, sur l'Union européenne. Et ce qui était très important pour nous, d'abord d'apprendre sur les différents pays, hein, justement la différence des 28 pays. Et le multilinguisme aussi est très important pour nous. Moi, je suis professeure d'allemand, mais il n'y a que 2 élèves qui apprennent allemand dans ce groupe. Mais les autres apprennent italien et espagnol. Et voilà, c'est la différence en Europe qui nous parle et que nous cherchons à comprendre.
Et vous avez travaillé donc aussi bien sur les langues, si j'ai bien compris, que sur les institutions européennes.
Oui, nous avons fait des recherches sur Internet, mais aussi dans les manuels, dans des magazines en langue étrangère. Et notamment sur l'axe très important de l'Union européenne qui est l'amitié franco-allemande.
Et on va démarrer tout de suite d'ailleurs avec des explications qui nous seront fournies par Camélia qui est juste à mes côtés. Bonjour Camélia.
Oui, bonjour.
Alors c'est probablement ta première radio comme tes camarades tout à l'heure. Donc oui. Tu restes bien calme, tranquille. Tu as travaillé toi Camélia sur les relations franco-allemandes et leur histoire.
Oui, j'ai travaillé sur l'amitié franco-allemande. Donc le traité de l'Élysée en 1963 a officialisé ce rapprochement symbolique. En 1963, le président Charles de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer signent le traité de l'Élysée pour que la coopération franco-allemande devienne une réalité quotidienne. Depuis, de nombreuses villes, écoles, régions et universités sont jumelées et l'Office franco-allemand pour la jeunesse, l'OFAJ, offre à 2 millions de jeunes la chance de participer à des échanges. L'amitié franco-allemande est l'ensemble des relations nouées entre la France et l'Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale. La France et l'Allemagne, en moins d'un siècle, se sont livrées 3 guerres. La guerre franco-prussienne, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale.
Cette volonté de faire un traité d'amitié franco-allemande, mais après, justement, tu le disais, 3 guerres mondiales, c'est remarquable. Qu'est-ce que tu en penses?
Il y a eu beaucoup de guerres, donc il faut apaiser les tensions entre ces deux pays.
Est-ce que tu crois que ça a été facile lorsque Konrad Adenauer et Charles de Gaulle ont dit il faut qu'on se mette autour de la table et qu'on parle amitié entre nos deux pays qui se sont affrontés?
Non, je sais pas. Non.
Ça n'a pas été simple, hein? Je pense pas. Hein? Donc, effectivement, Sabine, peut-être.
Oui, c'était pas simple du tout et c'était une grande volonté française. Ça venait de Charles de Gaulle. Et Adenauer était très réticent. Il avait la trouille un peu. Mais c'est aussi c'est grâce à cette volonté de Gaulle que le rapprochement a pu se faire.
Parce qu'il y a, 18 ans avant, une quinzaine d'années avant, eh bien c'était la guerre entre ces deux pays. Et là, tout d'un coup, on allait parler surtout notamment d'échanges commerciaux et puis évidemment d'échanges d'amitié avec ces relations franco-allemandes et qui ont évolué au fil du temps, hein, Sabine. une évidence.
Oui, chaque année, lors de la journée franco-allemande, de nouvelles structures sont installées pour solidifier ces échanges.
Et on voit régulièrement, vous le savez, Angela Merkel avec Emmanuel Macron actuellement. Avant, c'était avec François Hollande et avant, c'était avec Nicolas Sarkozy. Bref, les dirigeants des deux pays travaillent souvent main dans la main. D'ailleurs, il y a une image symbolique, main dans la main, c'est évidemment l'image d'Helmut Kohl. Vous m'arrêtez si je me trompe, avec François Mitterrand, un mémorial de la guerre mondiale. Et ça a été une image qui a marqué les esprits et qu'on retrouve dans les livres d'histoire. L'amitié franco-allemande, ça continue. Et c'est d'ailleurs le sujet qui est évoqué et travaillé par Carla et Adèle, qu'on reçoit. Carla, cette amitié franco-allemande, qu'en est-il ?
Alors, bonjour. La journée franco-allemande met à l'honneur plus de 50 ans d'amitié et de coopération entre la France et l'Allemagne. Elle est organisée entre les deux pays chaque 22 janvier depuis 2004. Écoles, collèges et lycées des deux pays sont invités à redoubler d'imagination pour faire connaître le pays voisin.
Le 22 janvier 2013, nous commémorons le 50e anniversaire de la signature du traité de l'Élysée. La sélection de liens présentés porte sur des éléments de l'histoire culturelle, politique, militaire entre la France et l'Allemagne depuis la fin du XVIIIe siècle.
Le prix de l'amitié franco-allemande a été créé en 2008. Il récompense les citoyens français ou allemands de toute origine, géographique ou sociale, qui s'engagent personnellement pour faire progresser l'amitié entre Français et Allemands.
Vous avez utilisé un adjectif important qui montre tout l'intérêt de cette amitié franco-allemande, c'est l'adjectif militaire. Vous êtes rendu compte de ça ? C'est-à-dire que effectivement, des nations qui se sont affrontées, eh bien, à un moment, il y a la paix qui va arriver et il faut faire vivre la paix. Et c'est l'objet de l'amitié franco-allemande.
Oui, il y a aussi une brigade franco-allemande qui est d'ailleurs, il y a une partie qui est stationnée pas loin de nous, à Le Luc en Provence.
Donc des militaires qui travaillent ensemble et des deux pays avec des objectifs communs. Alors l'Europe met en place aussi pas mal de programmes, de projets communs. Et là, ce sont deux autres élèves qui ont travaillé sur le programme Voltaire, justement. C'est Laïla et Estella. Bonjour à toutes les deux. Alors Laïla, c'est à toi.
Le programme Voltaire, en fait, c'est un programme d'échange scolaire et déscolaire pour les étudiants français et allemands. Les étudiants allemands et français passeront chacun 6 mois dans le pays de l'autre. C'est un programme créé en 1999 avec au départ 30 participants, puis environ 500 participants actuellement. Il s'adresse à des élèves de seconde et troisième pour les Français qui font allemand deuxième langue.
Il a été créé pour les étudiants qui veulent découvrir une autre culture, approfondir leurs connaissances en langue et de s'ouvrir à l'Europe et au monde. Les jeunes français peuvent poser candidature de septembre à novembre pour participer à ce programme. Les deux correspondants fréquentent l'école de leur partenaire pendant la durée de leur séjour chez lui. Ce programme est gratuit. Les Allemands sont accueillis de mars à août et les Français de septembre à février.
Est-ce que ça vous tente, vous, un séjour en Allemagne comme ça, ou dans un pays étranger, pour découvrir un autre pays de l'Europe ? Laïla ?
Oui.
Oui ?
Oui.
Quel pays tu aimerais découvrir ? Européen, si possible, hein, attention.
Les Pays-Bas.
Ouais, ouais. Et Estella, ça te dit quelque chose ? Ça te tente ou pas ?
Oui, ce serait plutôt l'Allemagne.
L'Allemagne ? Ouais. Ouais. Ça tombe bien parce que Sabine Copland connaît particulièrement bien l'Allemagne. Sabine, vous accompagnez régulièrement vos élèves en Allemagne. Vous les trouvez curieux de ce qui se passe dans ce pays ami ?
Oui, c'est vraiment très très intéressant et c'est merveilleux pour moi de voir que les élèves s'intéressent à ce point. Ça fait énormément de travail, la préparation de cet échange. Mais quand je vois que ce que ça apporte, c'est, ça donne énormément d'idées. Ils voient quelque chose de nouveau, et c'est des choses qu'ils ont jamais vues avant, qu'ils n'ont pas pensé. Et dans cet échange avec les jeunes allemandes, beaucoup se passe.
Alors on va faire une petite pause musicale et vous avez choisi tous ensemble un air particulier, une musique particulière et d'un groupe particulier. Est-ce que Sabine, je peux vous demander de nous le présenter ce morceau?
Oui, alors je présente Scorpions. C'est un groupe d'origine allemande d'ailleurs et par hasard, ils viennent de la même ville que moi, de Hanovre.
Des copains donc.
ils sont à la retraite entre-temps, mais en 89, après la chute du mur, ils ont fait la chanson Wind of Change.
And down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
The Wind of Change, ça tombe bien, le vent du changement sur Fréquence Mistral, tout va bien, et évidemment c'est une référence à la chute du mur de Berlin, Sabine Copland le disait. Vous êtes en direct sur Fréquence Mistral et nous accueillons des jeunes élèves de seconde de Manosque qui viennent parler de l'Europe justement et de l'Allemagne avec Julie et Claire qui nous ont rejoints. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Julie, toi tu as travaillé sur quelque chose de particulier et qui est quelque part aussi franco-allemand, c'est l'hymne européen.
Oui, alors l'hymne européen symbolise l'Union européenne. Il fait partie de la 9e symphonie de Ludwig van Beethoven, composée en 1823.
Il s'intitule L'Ode à la joie et a été écrit par Friedrich von Schiller. Friedrich von Schiller est un Allemand, poète, dramaturge et écrivain. Il est l'auteur de L'Ode à la joie et ami de Goethe, qui était un homme d'État allemand et un écrivain.
En 1972, le Conseil de l'Europe adopte le thème musical de l'Ode à la joie, et en 1985, les gouvernements et les chefs d'État des pays membres de l'Union européenne adoptent cet hymne comme hymne officiel.
C'est un hymne sans parole, il dégage des idéaux de paix, de liberté, de solidarité incarnés par l'Europe. Il célèbre ainsi les valeurs de l'Europe. Il est chanté lors des cérémonies officielles en rapport avec l'Europe, dans des fêtes.
Il est présent dans tous les pays membres. Il y a des paroles différentes pour chaque pays comme la France, l'Allemagne ou encore l'Espagne.
Vous le connaissiez cet hymne avant de travailler sur ces mélodies avec votre classe ?
Oui, on l'avait déjà entendu.
Quand est-ce que tu l'as entendu ? Tu te souviens par hasard ?
Non, mais déjà plusieurs années auparavant, je le connaissais.
Ouais.
Moi aussi, je le connais. Mes parents ont peut-être les fait écouter une fois.
Eurovision, ça veut dire quelque chose, non? Parce que très souvent, c'est là qu'on entend cet hymne. Mais pas uniquement, tu le disais tout à l'heure, c'est Julie, tu le disais à propos des manifestations qui sont organisées par l'Europe. On utilise ces mélodies et qui sont des mélodies magnifiques. Hein. L'orchestration qu'on a entendue, d'ailleurs, c'est une très belle version qu'on a entendue et qu'on entendra à la fin de cette émission. Sabine Copland, on a vu là, il y a un trio magnifique, c'est évidemment Beethoven, Schiller et puis Goethe, quoi. Donc là, il y a, même si on n'a pas les paroles, c'est un hymne qui résonne chez les Allemands.
Oui,
évidemment.
Oui, et c'est une musique où on a un sentiment de liberté, de progrès, tout est possible, il faut que ça avance. C'est un hymne d'avenir.
Et positif. Hein?
Voilà, vraiment. Et c'est Schiller, voilà le texte de Schiller et aussi la musique de Beethoven était écrit à peu près au même moment où il y avait des mouvements de libération en Allemagne.
Et donc c'est bien qu'en 1972, on ait décrété que ce soit cette musique et ces paroles qui servent d'illustration pour parler de l'Europe. Alors l'Europe, c'est aussi un continent qui vit et qui parfois vit mal, avec notamment des problèmes sociaux, des problèmes politiques, et puis des problèmes, on le sait en plus aujourd'hui où il y a eu une marche de la jeunesse pour le climat, des problèmes qui touchent à l'environnement. Et Manon et Valentine, vous avez travaillé, vous, justement, sur la question des déchets plastiques en Europe.
Oui, bonjour. On a travaillé sur l'essor de la production de plastique au cours des 50 dernières années. Cela ne se dément pas et devrait doubler dans les deux décennies à venir. 300 millions de tonnes sont produites chaque année dans le monde, dont plus de 60 en Europe. L'emballage absorbe la grande majorité des plastiques à courte durée d'utilisation qui envahissent de façon consternante nos poubelles. 66 000 camions poubelles de plastique déversent chaque année dans le milieu marin. Que 30% de ces plastiques est trié en vue d'être recyclé. En 2009, la France a produit 1,66 million de tonnes en déchets plastiques. Elle en a recyclé 18% et transformé environ 37% en valorisation énergétique. Les 45% restants sont partis en charge. Aujourd'hui, le plastique providentiel s'est transformé en une bombe à retardement dont on découvre les effets à long terme sur notre santé et notre environnement.
Recycler en circuit fermé signifie collecter, trier, décontaminer et repolymériser un plastique qui se dégrade au cours du procédé de recyclage. Les contraintes logistiques de collecte sont importantes, la consommation d'énergie des multiples étapes se discute et sa probabilité de contamination dangereuse également. L'interdiction de la mise en décharge des déchets plastiques pour les diriger vers les stations de recyclage ou d'incinération est un premier pas que la France devra franchir d'ici 2025. D'autres mesures sont attendues et doivent faire l'objet d'un soutien sans réserve et sans délai, comme par exemple la réduction efficace de notre consommation de plastique, puis le retrait graduel du marché. Citons également leur substitution, autant que possible, par des alternatives biodégradables.
Valentine et Manon, vous êtes sensibles à cette question justement de la pollution par les plastiques ?
Oui, bah, comme ce matin, nous avons fait une manifestation avec tous les lycées et pour combattre contre tous ces déchets et cette pollution pour sauver la planète.
Alors, profites-en, tu as un micro, sers-toi de ce micro. Qu'est-ce que tu dis aux adultes qui ont fait, comme moi, des bêtises en ne triant pas leurs déchets, en polluant cette terre qu'on va vous laisser en piteux état ? Qu'est-ce que tu nous dis ?
Il faut sensibiliser la jeunesse à trier et recycler. Et à continuer comme ça.
Et à faire très attention à cette planète. Elle nous est chère, cette planète. Il faut faire attention. Est-ce que tu crois que des règlements européens pourraient améliorer la situation ?
Oui, je pense.
Sabine, votre avis là-dessus ?
Oui, l'Union européenne a aussi pris des décisions en octobre. Par exemple, des produits plastiques à usage unique seront interdits. Mais hélas, qu'à partir de 21, jusqu'à là, on peut continuer à les vendre. Parce que justement, ces plastiques à usage unique font 70% des déchets marins. Voilà,
il faudrait vraiment. C'est une pollution terrible.
Oui. Ouais.
Donc c'est vrai que la jeunesse doit interpeller les politiques et c'est ce que vous avez fait aujourd'hui dans la rue, partout dans le monde d'ailleurs, hein, pas uniquement à Manosque, et c'est une bonne chose. Sachez que certains adultes comme moi sommes aussi évidemment mobilisés, motivés pour rendre une planète aux générations qui arrivent beaucoup plus propre et beaucoup plus fréquentable. On est responsable, nous sommes responsables de cela et il faudrait qu'on arrive à changer. Bousculez-nous s'il vous plaît, vous les jeunes, il faut nous bousculer, il faut qu'on arrive à bousculer ensemble aussi les politiques qui ont le pouvoir de pouvoir faire changer les choses et de manière à ce que cette terre soit magnifique. Et justement, le pouvoir de changer les choses dans une démocratie, ce sont les élections et bientôt on va voter pour les élections européennes, donc pour les députés européens. Selma, c'est toi qui te charges de cette question particulière des élections.
Oui, bonjour. Donc les élections européennes 2019 sont du jeudi 23 mai au dimanche 26 mai. Elles se tiendront dans l'ensemble des 27 États membres. Tous les 5 ans, les élections permettent aux citoyens de choisir leurs représentants au Parlement européen. En 2019, 705 eurodéputés seront élus, un nombre réduit par rapport aux 751 sièges à pourvoir en 2014. En effet, avec l'entrée en vigueur du Brexit en mars 2019, il n'y aura plus d'eurodéputés, mais on verra bien ce que ça donne. Les élections ont lieu tous les 5 ans, à la même période, dans l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Il doit ensuite conduire sur le scrutin sur le territoire et nécessairement à la proportionnelle. Le gouvernement a introduit un changement important. Le pays ne sera plus découpé en 8 circonscriptions régionales entre 2003 et 2014, mais formera une circonscription unique. Pour être candidat aux élections européennes, il faut être citoyen de l'un des 27 États membres de l'Union européenne, pas nécessairement français, être âgé d'au moins 18 ans, être domicilé ou résider en France depuis au moins 6 mois et jouir du droit d'éligibilité dans son pays d'origine.
On va faire un petit sondage, la main levée, puis je vais le traduire pour mes auditeurs. Est-ce que parmi les élèves qui sont devant moi, vous avez 18 ans, ou en tout cas vous aurez 18 ans le 23 mai ? Vous levez la main, s'il vous plaît. Non ? Alors pourquoi est-ce que vous êtes concerné par les élections européennes puisque vous ne votez pas ? Allez, je provoque un peu. Selma, ta réponse ? ça t'intéresse, ça te concerne alors que tu vas pas voter, c'est ça ma question.
Ben parce que plus tard on aura 18 ans et enfin ça va nous concerner tôt ou tard.
Bien sûr, ça fait partie de la sensibilisation à une certaine politique aussi qui tient pas compte des partis politiques mais tout simplement d'une citoyenneté. Sabine, un professeur de lycée transmet ce type de valeur aussi à ses élèves. De dire, l'expression de la démocratie, c'est aussi, c'est le vote. Oui. C'est la première expression de la démocratie.
Voilà, tout professeur est aussi, en quelque sorte, éducateur. C'est une éducation à la citoyenneté européenne.
Donc, c'est vrai que vous serez appelé prochainement à voter, peut-être pas aux élections européennes, ce sera plus tard, bien sûr, mais il y a d'autres élections en France. On élit des députés, on élit des conseillers régionaux, des conseillers départementaux, des maires également. J'avais oublié le premier échelon. Et puis aussi, bien sûr, un président de la République. Et c'est tous les 5 ans, je crois, les élections européennes, avec donc une élection cette année qui est marquée par un séisme au niveau de l'Europe. C'est le départ de la Grande-Bretagne, avec tous les drames que l'on peut imaginer, avec des gens qui sont plus dans la famille européenne. Et vous voyez, je suppose, souvent à la télévision, ce qui se passe en Grande-Bretagne avec le Premier ministre Theresa May, qui est absolument incapable de gouverner son pays, qui a décidé de quitter l'Europe, mais qui ne sait pas comment quitter l'Europe, ni combien ça va lui coûter. C'est ça le problème du Brexit. Et ça a été fait peut-être un petit peu de manière trop cavalière de la part de David Cameron, qui était le précédent Premier ministre en Grande-Bretagne. Vous vous intéressez à cette situation européenne politique, Estella, par exemple, et Leïla, où est-ce que vous êtes? Vous pouvez vous rapprocher, si vous voulez, pour répondre. Ou bien Manon et Selma, enfin, allez-y, prenez la parole. Est-ce que les élections européennes, c'est un spectacle ou c'est quelque chose d'utile pour vous, vraiment?
Eh bien, pour moi, c'est quelque chose d'utile.
Tu sais à quoi sert un député européen?
C'est celui qui aide le président. Et c'est tout ce que je sais.
Oui, et c'est lui qui va gérer, par exemple, la question des déchets plastiques, qui va donner des informations à une autre sphère que le Parlement européen, qui est la Commission européenne, qui, elle, a du pouvoir. Et ce ne sont pas des gens qui sont élus. Ça, c'est un des problèmes, d'ailleurs, de l'Europe. Mais bon, on n'est pas là pour en discuter. Et donc, la Commission européenne qui émet des règles dans les pays et des directives et qui font qu'on n'a pas le droit de faire certaines choses dans tous les pays de l'Europe, parce que l'Europe en a décidé ainsi. Et on espère qu'ils vont décider moins polluer, d'être un peu plus à l'écoute des personnes, et notamment de la jeunesse. En tout cas, c'est ce qu'on a fait, nous, pendant cette émission. Sabine, avec vos élèves, qui ont été, je dois dire, qui ont bien travaillé sur les dossiers.
Mmh. Oui, moi, je suis très satisfaite.
Oui, et puis on peut leur demander aussi, qu'est-ce que vous avez pensé de cet exercice particulier de vous adresser justement à un micro, Julie, par exemple.
Moi, j'ai trouvé ça très enrichissant et ça nous apporte de la confiance en nous et c'est super.
C'est bien. Claire, ton avis?
Moi, c'était la première fois, ça m'a permis de mieux parler à l'oral. Et puis, c'est une expérience à prendre pour la vie à venir.
Très bien, très bien. Et on continue après Manon.
Moi aussi, j'ai trouvé ça enrichissant et pour l'oral, ça fait travailler.
Oui, c'est bien. Valentine?
Oui, pareil, j'ai trouvé ça bien, surtout que c'était la première fois, donc j'ai bien aimé.
Et Selma?
Moi aussi, c'était ma première fois et je conseille ça à beaucoup de gens parce que ça aide pour l'oral et c'est bien.
C'est bien. En tout cas, vous avez été très bien. Et puis vos camarades avant vous aussi, Camélia, Carla, Adèle et j'en oublie peut-être, Leïla, Laïla et Estella. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout le monde. On va saluer aussi la présence de Kim et Caroline, qui sont des lectrices allemandes, qui sont actuellement en poste au lycée de Manos, qui sont particulièrement timides, qui n'ont pas voulu parler, mais on les salue avec beaucoup d'amitié. Merci encore aussi, Sabine, Sabine d'avoir eu cette idée magnifique de faire une émission sur l'Europe. Je vous rappelle, donc le 23 mai, ça va commencer dans les pays européens jusqu'au 26 mai. Le 26 mai, on saura qui représente la France au Conseil de l'Europe et on suivra ça évidemment. Au Parlement, pardon, oui, merci Sabine. On ne peut pas tout savoir non plus, et c'est très bien. Donc le Parlement qui est à Strasbourg.
Strasbourg, et voilà. Nous le visitons chaque fois quand nous allons à Stuttgart. C'est pas loin de la ville jumelle, à 2h30.
De Leinfelden et Sterlingen, ouais, j'ai appris à bien le dire, donc ça va. Ben, c'est bien, c'est une bonne chose. Merci et bravo à toutes les filles. Tiens, il n'y avait que des filles aujourd'hui, c'est bien, pourquoi pas. Bravo, bonne scolarité, continuez à parler aussi bien que vous l'avez fait tout à l'heure et à réfléchir aussi bien que vous l'aviez fait avant en classe. Merci aussi Sabine
et merci
à Chloé. Merci à Chloé qui a assuré la régie aussi. Bon après-midi, à bientôt.
Merci François, merci à toutes et bonne journée sur Fréquence Mistral.